Eh bien, bienvenue à tous. Et donc, ce soir, nous voyons le chapitre 8 et on va parler des amplificateurs opérationnels et des circuits logiques. Donc, premièrement, c'est la dernière, enfin, c'est le dernier chapitre de cette partie consacrée aux composants actifs. Et là, on va parler de composants qui s'appellent des amplificateurs opérationnels, qui sont des circuits intégrés. Il existe beaucoup d'autres types de circuits intégrés, notamment les microprocesseurs, mais ce n'est pas au programme de l'examen, tout au moins, enfin, on verra tout à l'heure dans la deuxième partie du cours, où on parlera du traitement numérique du signal. Donc voilà. Un circuit intégré, c'est en fait un circuit où à l'intérieur on a plusieurs transistors, plusieurs résistances, etc. Le tout encapsulé dans, dans un boîtier avec plein de pattes. Donc je vais vous montrer à la webcam ce que c'est qu'un circuit intégré. Alors c'est pas obligatoirement un amplificateur opérationnel, hein, mais voilà, ce sont des circuits intégrés, ça peut être des circuits logiques, ça peut être tout ce que l'on veut. Alors, l'HD, hop, on va mettre la webcam si ça veut bien venir. Voilà. J'aurais dû préparer ça avant. C'est propre et net, comme il se doit, avec du reflet, comme il se doit. Voilà. Toujours aussi chiant ces reflets. Bon, je vais mettre ma main pour cacher la lumière qui arrive devant. Donc en fait, mon circuit intégré, ça c'est le circuit intégré une fois qu'il est fabriqué, et ça c'est avant l'étape de fabrication. Donc on voit là, c'est mon, enfin, la puce, elle est au milieu là, c'est là où vous avez tous les composants. Donc c'est tout petit, hein, vous voyez la pointe de mon stylo là, et ça encore, c'est un gros circuit intégré. Et là autour, donc vous avez des... Les pattes, elles sont reliées à des plots sur mon circuit intégré. Donc c'est tout petit, tout petit, tout petit. Je vous dis, c'est pas fait à la main, hein. C'est fait à la machine. Et une fois que l'on a monté cette pièce-là, on coupe les bords ici, on replie les pattes et on noie tout ça dans de la résine. Et après, pour faire bien les choses, on met ce que c'est, on met la référence dessus. Parce que sinon, on est dans le caca pour savoir ce que c'est.
Oh, ils ont des supports
Mais
détecter ce que c'est, sûr.
voilà, mais voilà. Hein, intuitivement, enfin, si on n'a pas la référence enfin, de ce que c'est, on est infoutu de savoir. Enfin, ou alors, il faut tester dans tous les sens, mais voilà. Et quelquefois, les fabricants de matière, enfin de matériel électronique, ne mettent pas la référence, enfin, du fabricant, ils mettent leur propre référence.
Comme ça, on ne sait pas ce qu'il y
Et
a dedans.
comme ça, on ne sait pas ce que c'est qu'il y a dedans.
IBM, en gros, faisait ça.
Voilà. Donc, y a, mais, enfin,
Oui.
toutes les grandes marques qui veulent, enfin, qui veulent pas se faire piquer leur technologie, en fait, hein, c'est ça. Donc
Les
voilà, ça
militaires, en
c'en est
gros.
un, mais vous en avez aussi qui peuvent être montés, comme par exemple ici, dans un boîtier, comme un transistor, mais là vous avez beaucoup plus de pattes qu'un transistor. Là en l'occurrence, il y en a 8. Et puis après, ben voilà, vous en avez d'autres, là, voilà, encore un. Ça ressemble plutôt d'ailleurs à un circuit, un ampli-op, puisque là on a nos 8 pattes de l'ampli-op. Donc ça pourrait être un ampli-op, ça.
Parce que tu montres
Et l'ampli hop, il est fini, il est là.
L'ampli hop standard, il a 8 pattes.
Hein. Il a 8 pattes.
Et l'autre à droite, il a 6 pattes.
Hein. Celui-là, il a 6 pattes, donc c'est pas un ampli hop.
Pas forcément. Il y a une communique, bon. Peut-être en SDL.
C'est comme l'ampli hop le plus classique, le 741, il a 8 pattes.
C'est le premier.
Voilà. Donc voilà mes circuits intégrés. Ah, je me suis permis sur 144. F6 KGL opéré par F6 GPX. Voilà mes ampli-hop. Ici, je vous ai mis des photos qu'on avait prises à l'époque. Et donc, mon circuit intégré, là, par exemple, celui-là, il a 8 pattes. Et il y a un détrompeur qui permet de savoir dans quel sens il faut mettre le circuit intégré, sinon on est mal. Et donc il y a un point ou une petite encoche dans le circuit, enfin, il y a quelque chose qui doit vous montrer que ce détrompeur doit être en haut. Et les pattes du circuit intégré, c'est toujours, on commence par la 1, qui est donc le premier à gauche, et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Ça, c'est quand tu le regardes en dessous ou par-dessus ?
Par-dessus. Et en dessous, c'est dans l'autre sens, évidemment. Donc tous les dessins que je vous fais, c'est on regarde au-dessus. D'accord ? Et ça c'est valable pour tous les circuits intégrés.
Dual inline.
Ce qu'on appelle du dual inline parce qu'il y a deux rangs de chaque côté. Alors on a aussi des circuits intégrés qui sont en single inline. Donc ils sont tous les uns derrière les autres alignés. Et en fait le circuit intégré il est au-dessus. Et puis, il y en a aussi, comme on a vu, là, dans des boîtiers un petit peu comme des transistors. Donc, ceux-là, il y a 8 pattes. Il y a toujours pareil, il y a un détrompeur, comme pour le transistor, donc l'espèce d'ergo, là. Et donc le numéro 1, il est en face de l'ergo. Et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au-dessus, hein, quand on regarde par au-dessus, pour trouver comment ça marche, pour trouver l'ordre des pattes. D'accord ? Donc, ça, c'est pour la présentation d'un circuit intégré. Nous, ce que l'on va voir ce soir, ce sont deux types de circuits intégrés, enfin, plus en détail. Un, l'amplificateur opérationnel, on va le voir très en détail. Et deuxièmement, les circuits logiques. Où on va voir un peu moins de détails. Pourquoi ? C'est qu'il n'y a pas de... J'ai jamais vu de question dessus. Enfin, j'ai vu une question dessus pendant 20 ans. Une question. Donc, on va se calmer. On va dire, il n'y en a pas beaucoup. Donc, l'amplificateur opérationnel, c'est quelque chose qui est assez ancien et se présente schématiquement comme un amplificateur, puisque on a un triangle avec sur le côté de la base ici, on a les deux entrées. Un amplificateur, il y a toujours deux entrées et une sortie. Plus, faut faire marcher les composants qu'il y a à l'intérieur, donc il y a une alimentation moins et une alimentation plus. D'accord ? Je vais dire ça. Voilà. L'idée de cet amplificateur opérationnel, on a ici une entrée positive et ici une entrée négative. Il y a un plus, un moins. Et amplificateur opérationnel, c'est que mon amplificateur, il fait une opération. C'est bête. Hein, d'où le nom. Alors, l'opération, elle est très simple. Le circuit va tester si ça, c'est vrai. Est-ce que la tension présente sur l'entrée plus est vraiment plus grande que la tension présente à l'entrée moins? Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, ça, ma sortie, ici, va être connectée au plus de l'alimentation. Et si c'est faux, ma sortie va être connectée au moins. Alors, quand on dit au plus et au moins, c'est pas...
C'est la valeur entre les deux.
Voilà. C'est pas vraiment... C'est-à-dire que si je mets une alimentation de 9 volts ici, j'aurai jamais 9 volts en sortie. Pourquoi ? Parce que le circuit, il a besoin d'un peu de tension pour fonctionner. Et même chose, si c'est faux, c'est-à-dire que si l'entrée négative, elle est supérieure à l'entrée positive, je n'aurai jamais 0 volt. Je vais avoir 1 volt 2, à peu près. Pourquoi ? C'est que mon circuit, il a besoin d'un peu de tension pour fonctionner. Mais ce qui est très important, c'est que à partir du moment où juste je bascule de quelques millivolts d'un côté ou de l'autre, en fait, c'est comme si j'avais ici une sorte de relais. Donc je colle soit vers la ligne plus ou vers la ligne moins. C'est vraiment le truc bestial. Et on se dit, bah ouais, et avec ça, on fait quoi? Eh ben, avec ça, on va faire des tas de trucs. Et, alors, deuxième point aussi très important, hyper important, il n'y a aucun courant qui passe dans l'entrée positive ou l'entrée négative. Ce qui veut dire que l'impédance, elle est infinie. L'impédance, c'est le rapport tension divisée par intensité. Intensité est nulle, donc impédance infinie. En sortie, en revanche, puisque ici ça fonctionne à peu près comme un relais, ici j'ai une impédance qui est très faible. Alors, c'est aussi faux parce que bah, vous avez vu la taille de mon circuit de mon ampli-op. Voilà, donc si je fous 10 ampères dedans, il va vite dégager. Voilà, donc je fais quand même attention, mais en théorie, l'impédance d'entrée est infinie, l'impédance de sortie est nulle, et le gain différentiel, il est infini. Puisque je bascule très rapidement de l'un à l'autre. Voilà, donc c'est quelque chose qui est, une sorte de bilame, quoi. C'est une sorte de bilame commandé. Alors, j'exagère, évidemment, mais l'idée, c'est ça. Alors, dans les ampli-op, on va voir que on peut la sortie, soit on va sur la tension alim, où on a aussi une tension qu'on appelle offset, qui est inférieure à l'alim, et qui, alors si on la calcule bien, hein, si on prend bien la description du fabricant, en fait, la tension ici en sortie, la tension qu'on appelle différentielle, elle ne va pas être la tension de l'alimentation, mais elle va être la tension offset plus. Et j'ai une tension offset moins de la même manière.
Je ne trouverai pas dans une désignation qui s'appelle rail to rail. Et là, on va le rail en fait pour le plus alimentation.
Ah oui, oui.
On va carrément.
Bon, enfin bon.
C'est des trucs très pointus.
C'est des trucs très pointus. Et de toute façon, l'idée là, c'est qu'on présente l'amplificateur opérationnel standard, le 741, qui est hyper, hyper standard. D'ailleurs, voici la datasheet. Ah bah oui, j'ai pas ouvert le fichier. Donc il faut que j'ouvre le fichier de la datasheet. Qui va être où? Tac, qui est là. Donc, ma datasheet, je pense qu'elle est passée là, du coup. Elle est passée, ma datasheet. Je suis pas où, je suis là. C'est bon, elle est passée, la datasheet. Donc ça, je l'ai récupérée sur Internet. Hein. Dans les dates, donc là, c'est le MUA741 et le MUA741Y. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est celui-là, parce que là, il y a plusieurs types de packages. Ça, c'est un package avec 14 pattes. Alors, quand c'est NC, c'est que c'est pas connecté. Donc, il y en a plein qui ne sont pas connectés. Voilà. Non, mais... Parce que le constructeur, il va pouvoir l'utiliser pour plusieurs appareils. Et puis moi, ce que je vais avoir utilisé là pour ce soir, c'est celui-là. Et je n'ai qu'une seule patte qui n'est pas connectée, puisque j'ai besoin de 7 pattes. Donc là, si j'en ai 14, eh ben, j'en ai ici 5, 7 qui ne sont pas connectées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Les doubles, ils utilisent un boîtier de la mag ici,
14 pattes. 14 pattes. Pour les doubles. Mais là, en l'occurrence, j'en ai qu'un seul dedans.
Et si elles ne sont pas connectées, ça va quoi?
À rien.
Pourquoi les installer?
Parce que le constructeur, parce donc, que des fois... parce que les constructeurs, en fait, il a sa machine, elle ne s'est montée que des 14, par exemple. Et donc, il a que des composants à 14 pattes.
Je voudrais bien qu'elle a son pote collecté. Elles sont en l'air. Oui, c'est pour...
C'est tout. Parce que après les 6, là, c'est des tout petits composants, et souvent, les machines, elles ont du mal à les choper. Alors que le 14, c'est une sorte de pince, en fait.
Oui.
Et voilà. Donc MUA, c'est le fabricant, c'est Fairchild. Faut savoir. Donc
c'est marqué en haut à gauche.
Voilà, c'est Fairchild. Donc voilà, là il y en a un autre à 10 pattes. Il y en a des carrés comme ça. Et donc le détrompeur, il est là, mais on commence ici. Enfin, c'est que des trucs particuliers. Et alors, il doit y en avoir aussi des ronds, mais je ne sais pas, ils ne l'ont pas mis là. Mais peut-être pas fabriqué par Fairchild, du coup. C'est peut-être Texas qui l'a fabriqué.
Je n'ai jamais vu des ronds. C'est Texas là.
Ouais, c'est un document Texas, ça.
Oui, bon, parce que voilà.
Alors ça, c'est par contre, c'est très intéressant. Alors donc ça, c'est toutes les caractéristiques des boîtiers. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est le schéma de l'intérieur de la puce. Alors, évidemment, on ne peut rien y faire, hein.
C'est impossible de l'ouvrir, là, même si vous voulez pas des outils, il y aura un mode.
Ouais, non, mais.
Parce que là, c'est fait avec les robots, les
autres. Oui, on voit rien du tout. Mais ça, c'est pour montrer ce que c'est.
Comment comprendre comment ça marche.
Et donc là, on a bien nos 7 pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, VCC, donc moins, la tension moins, la tension plus, la tension de sortie, mes deux entrées, l'entrée négative, l'entrée positive. Vous voyez, c'est ce système-là de bascule qui permet de passer d'un état à l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle une bascule. Et donc, vous avez deux transistors là en cascade. Alors, ce circuit-là a quelques résistances. Donc, elles sont toutes petites, les résistances. Hein. Une diode et un condensateur. Et donc, le condensateur aussi, alors j'ai pas la valeur, là, c'est pas marqué.
Il doit pas être gros non plus.
Mais il doit pas être gros non plus. Non, ouais. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le transistor, ça. Et donc, effectivement, c'est le sens de circulation, voilà, quand il est dans le sens passant, ouvert. Ça revient un peu. Et vous voyez là, la tension out, en fait, elle passe ici par deux transistors.
On va dire que c'est deux transistors de puissance.
C'est ces fameux deux transistors de puissance qui sont directement connectés ici au plus et au moins. Et donc là, ça passe directement en out. Donc c'est pour ça qu'on a une impédance assez faible, parce que les deux transistors là, sont montés les uns à la suite des autres, enfin, quasiment en direct. Ça, c'est un truc encore plus intéressant, c'est le dessin. Donc, les composants, alors, ne me demandez pas où sont les transistors, où est le condensateur, etc. Parce que là, en l'occurrence, les résistances, c'est le fait que la piste, ça, soit plus étroite, qui forme la résistance. Et le condensateur, c'est deux pistes qui sont l'une à côté de l'autre, qui forment le condensateur. Donc, bon. Mais en tout cas, là, vous avez ici les plots. Donc, c'est sur ces plots-là que sont connectés chacune des pattes. C'est, donc il y a une machine qui est super précise, qui soude donc les pattes sur ces plots là.
Ça n'est pas là, on voit qu'une seule couche. Mais quand on regarde au microscope électronique,
ouais,
on dirait qu'on est dans une ville du futur.
Ouais.
Il y a des empilements avec de largeurs différentes, des fibres, certains ça s'est intégré. Il y a un fil qui passe d'un bâtiment à l'autre. Et puis d'autres, on rebouffe ce qu'on va fixer par synthèse négative, qui font la plaque de silicium, projection photographique sur une couche, première couche. Donc on crée le premier circuit intégré.
Et puis on en rajoute une.
Nous, on rajoute ça, on rebelote, on creuse.
Ouais,
ça permet d'avoir différentes couches et différentes sections. Prends pour un électron qui voyage avec une bagnole dans le futur.
Ici, bon, pour continuer, là, on a toutes les caractéristiques. Alors, vous voyez que les tensions à utiliser, faut pas déconner, parce que, voilà, pour certains, c'est 36 volts, et puis maxi, c'est 50 volts, quoi. Donc, bon, faut faire attention. Ici, la puissance. Voilà, la puissance pour, selon le boîtier, mais de toute façon, c'est toujours 500 milliwatts. Hein. 500 milliwatts, c'est pas grand-chose. Après, ça dégage. Voilà, alors là, je vous en parle pas. Il y en a des tas. Et on finit par démontage proposé par le constructeur, démontage d'application. Donc là, voilà, et puis il y a des courbes en veux-tu, en voilà, que l'on va pas regarder parce que c'est plus du tout, ça va au-delà de notre problématique, mais voilà. Et ce que je voulais vous montrer aussi, ça c'est des photos que j'ai récupérées sur Internet. Et là, ça c'est quelqu'un qui s'est amusé à démonter donc un.
On revoit que ça a été.
Voilà, dans le boîtier là, métallique. Et, alors, je sais pas comment il a fait. Enfin bon, là, on voit bien, il a coupé avec, je sais pas quoi, une petite.
Il n'est pas énorme, donc avec une scie à métaux, c'est impossible.
Mais scie à métaux, c'est.
Une scie à comment dans les marques.
Bah oui, non, mais c'est une petite, tu sais, c'est des petites.
La petite
fraiseuse à main, là. Ouais. C'est des petites fraiseuses à main, je pense.
Et puis il y a le nœud connecté, on voit.
Voilà, et voilà, le nœud connecté, bah, il est là.
Et une équipe, et comme je vous disais tout à l'heure, là par contre c'était des opératrices. Hein. Au début, c'était des opératrices. On donnait ça en général aux femmes, c'est la manière doigtée.
Mais enfin voilà, ça c'était quand même. Et là donc, là c'est la puce que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein. Donc ça devait être des gens qui faisaient ça sous microscope, enfin peut-être pas microscope, mais enfin binoculaire tout au moins.
Il y en avait quelques-uns avant d'y arriver.
Voilà. Donc voilà, ici donc le sens, alors évidemment, que je vous disais, le sens antihoraire quand on regarde au-dessus, mais si on regarde en dessous, évidemment, c'est dans l'autre sens. Enfin bon, c'est... Et donc toujours ici, en l'occurrence, là, la patte numéro 1 qui est en face, là, et ici, là, bah, là, il y en a deux, là, donc il y a l'encoche, plus l'espèce de point de couleur. Le point de couleur, il est en face, enfin, quand il y en a un, il est en face de la patte 1. Mais il y en a...
C'est ou l'un ou l'autre, en fait.
Ouais, ouais, c'est l'un ou l'autre. Là, j'ai trouvé une photo où il y a les deux, donc... voilà. Et ça, c'est encore un MUA741, d'ailleurs. Encore un Fairchild. Là, alors ça, c'est un MAA741. Je ne sais pas quel est le constructeur. Mais c'est pas un MUA, c'est un MAA. Enfin, c'est un 741. Alors, on va regarder s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Ben, on va en arriver à savoir qu'est-ce que ça fait, parce que là, pour le moment, on a beaucoup causé autour de ce truc-là. On n'a toujours pas compris comment ça marchait et ce que l'on pouvait faire avec. Tout plein de choses on peut faire. Et le montage fondamental, alors, montage fondamental qui est celui sur lequel il y a 90% des questions à l'examen qui sont posées. C'est l'amplificateur inverseur de tension. L'amplificateur inverseur de tension, il se présente comme cela. Alors, dans les schémas, on ne représente jamais l'alimentation. Jamais. Mais il ne faut pas l'oublier. Et en plus, dans les schémas, on a toujours, enfin dans les schémas, dans les schémas théoriques, quand on parle d'alimentation, on dit toujours une alimentation plus, une alimentation moins. Alimentation moins, c'est donc négatif. Donc par exemple, on va l'alimenter en plus 5 volts, moins 5 volts. Et du coup, cette entrée, l'entrée positive, là, on va la mettre à la masse. Donc à une tension 0 volts. Hein, donc 5 volts positifs en alimentation, 5 volts négatifs dans l'alimentation moins. Et ici, ma tension sur l'entrée plus, elle est à la masse. Autre solution, si je mets ici la masse et ici du plus 9 volts, ici je vais faire en sorte d'avoir une tension fixe par un pont de résistance. Et donc, par exemple, je vais mettre deux résistances de même valeur. Comme ça, ma tension sur l'entrée positive, là, bah, elle aura toujours la même valeur. Et donc, mon système va fonctionner. Et c'est le montage que je vais faire ce soir, parce que ma pile, elle ne sait pas faire du moins 5 volts. Ou alors, il faudrait que j'en ai deux. Alors que dans les questions d'examen, c'est toujours posé comme ça. Donc la masse, elle est sur l'entrée positive et mon système là, d'amplification va être sur l'entrée négative. C'est pour ça d'ailleurs que ça me fait un amplificateur inverseur. Comment ça va fonctionner? Alors ça c'est très... En fait, l'ampli-op c'est un machin. Une fois qu'on a compris le truc, c'est tout bête. Mais en fait, c'est que tout un système de qui va chercher à trouver l'équilibre. Je m'explique. Ici, on a l'entrée. Ici, on a la sortie. La sortie, elle est reliée à la sortie différentielle ici. Alors, premier cas, j'ai une tension positive ici sur l'entrée. Positive par rapport à la masse. Donc ici, j'ai une tension positive, donc plus importante ici que mon entrée, que ma tension sur l'entrée positive. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir du coup un courant, puisque ici j'ai une tension positive, donc je vais avoir un petit courant qui va passer dans ma résistance. Ce courant, s'il est important, la valeur de ma chute de tension va être importante. Si le courant est faible, elle va être moins importante. Imaginons que ce courant est faible. Imaginons. Qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais avoir une tension, donc, qui va être légèrement... elle sera positive, elle restera positive, mais elle sera de toute façon inférieure ici à la tension d'entrée, puisque mon courant, il va dans ce sens-là. OK? Si cette tension-là est supérieure à la tension de mon entrée non inverseuse, automatiquement, donc ça va être faux, ma condition va être fausse, et donc ma sortie différentielle, elle va basculer vers le moins 5 volts. Donc le moins 5 volts, il va arriver là. Et donc mon système va avoir ici du moins 5 volts, il dira, merde. J'ai peut-être pas assez de courant, puisque ici j'ai une résistance et j'ai la même intensité qui passe dans cette résistance-là que dans cette résistance-là. D'accord ? Donc ça va tirer la tension vers le bas, ce qui va augmenter mon intensité. Ce qui augmente mon intensité aussi dans R1, ce qui fait baisser ma tension ici. Jusqu'au moment où mon entrée négative, là, va être inférieure à mon entrée positive. Et quand elle est inférieure, ça devient vrai. Et donc, mon système envoie non plus une tension de moins 5 volts, mais une tension de plus 5 volts. Ce qui va arrêter le courant ici. Et finalement, le système, il va être tout le temps à basculer et à chercher son équilibre pour faire en sorte que la tension ici soit strictement égale à la tension ici. Et dans ce cas-là, si mes deux tensions ici sont égales, eh bien, la tension de sortie, là, elle va être inversement proportionnelle au rapport des résistances. Ça, c'est ma loi d'Ohm. Ça, c'est... c'est un truc super compliqué. Alors, à l'examen, évidemment, on ne vous demande pas de reproduire ce raisonnement. Mais par contre, on va vous demander quel est le gain. Et le gain, c'est moins... R2 divisé par R1. Tout simplement. C'est très bête, hein. C'est très bête comme truc. Donc j'ai réussi à faire quelque chose, un système dont je peux le gain, je peux parfaitement le maîtriser grâce aux deux résistances là. Alors c'est un gain en tension, hein. Je n'ai pas parlé de l'impédance. Mais en tout cas, en gain en tension, le gain en tension, c'est moins R2 sur R1. Voilà, on a vu le montage fondamental. Et à partir de là, eh ben, nos amis ingénieurs ont développé une foultitude. Parce que ce montage fondamental, alors il va être utilisé, oui, mais pas tant que ça, il va être surtout utilisé avec d'autres montages, parce qu'une fois qu'on a réussi à faire ce type de manip, on va le dupliquer et faire d'autres manipulations. Alors, déjà, on va voir les questions d'examen. Donc, c'est soit quel est le gain de ce montage, donc c'est toujours pareil, moins R2 sur R1, donc R2 25 kΩ, R1 5000 ohms, histoire de vous emmerder à faire des conversions de kilo-ohms en ohms. Alors évidemment, dans les réponses, on va vous trouver un 5000 divisé par 25. Ah, au cas où, vous souhaitez, voilà.
Et c'est sûr, c'est une proportion de ça, c'est sûr, 25 kg par la somme de 5000 ohms, on va changer de proportion.
Voilà, ouais.
Par la somme de 5%.
Ben après, voilà, c'est pas. Il y a toutes les possibilités, c'est que des pièges après.
Ouais.
Évidemment, c'est un montage inverseur, puisque j'ai mis mon entrée ici sur l'entrée inverseuse. Donc il y a systématiquement un chiffre négatif. Mais on s'en fout, hein. Enfin, c'est le coefficient multiplicateur. C'est juste que j'ai inversé ma phase, c'est tout. Enfin, si je suis en courant alternatif, j'ai juste déphasé de 180 degrés mon signal. Je ne l'ai pas changé de forme. Hein, un gain négatif ne veut pas dire d'une perte. Hein, j'ai multiplié par moins 5. Je multiplie toujours par quelque chose supérieur à 1. Donc j'en ai plus en sortie qu'au départ. Et je peux très bien avoir ici une résistance R2 inférieure à la résistance R1. Et dans ce cas-là, j'ai un coefficient multiplicateur inférieur à 1. Voilà, bon, je ne vois pas trop l'intérêt, mais peut-être que la personne qui va faire le schéma, on verra 1. Je ne sais pas.
Ça te permet d'écréter éventuellement.
Ouais, après, je ne sais pas. Il y a des tas de. Enfin, il y a sûrement des moyens plus simples que pour écréter.
Oui.
Alors, le problème, attends, le problème, on a oublié de le dire, c'est que comme mon système, il est instable, il va me générer des harmoniques comme pas possible. Donc, mon ampli-op, surtout quand on est en radio, pour la partie amplification radio, surtout on l'oublie celui-là. Parce que comme générateur de merde et de bruit, c'est abominable. Donc on va plutôt l'utiliser en basse fréquence, parce que notre oreille, elle s'en fout un petit peu s'il y a du bruit ou pas. Elle sait très bien filtrer tout ça. En revanche, quand on est en émission, montage à éviter. Parce que là, pour le coup, on est certain d'avoir des harmoniques dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas trop l'utiliser, nous, réellement dans nos montages, sauf dans tous les montages où on va avoir un traitement BF. Parce qu'on va en avoir des tas. Donc ça, c'est une question avec un schéma. une question sans schéma, un amplificateur opérationnel, pas un amplificateur op, un amplificateur opérationnel monté en inverseur à un gain de moins 3 avec une résistance à l'entrée R1 de 10 000 ohms. Quelle est la valeur de la résistance de contre-réaction? Bah, du coup, elle est 3 fois plus grosse. Hein. Donc elle fait 30 kilo ohms et évidemment elle n'est pas de moins 30 kilo ohms. Une résistance négative, c'est une aberration. Comme une puissance négative. C'est pas possible. On a une tension négative, une intensité négative, mais une puissance ou une résistance négative, c'est pas possible. Et enfin, encore un schéma. Et là, on ne demande plus le gain, mais la tension en sortie. Donc, si j'ai ici un gain de moins 5, puisque 500 divisé par 100, ça me fait moins 5, multiplié par moins 0,5, moins par moins, ça me fait plus. Donc, en sortie, j'ai plus 2,5 volts. Et encore une fois, ce système-là, c'est en fait le système se stabilise autour de 2,5 volts. Mais si on regarde à l'oscilloscope, la sortie, on va voir que le truc, il ne fait que bouger. Parce qu'il cherche son équilibre. Mais au voltmètre, on ne va pas le voir parce que le voltmètre, il mesure une tension moyenne.
Comme il a l'inertie.
Et même les numériques. Hein. Même les numériques. Hein. Bon, alors, d'autant plus les voltmètres analogiques. Alors là, ils ont une inertie pas possible, donc on ne le verra pas. Pour qu'on puisse commencer à voir le haché, là, il faut monter aux alentours de 50 kHz à peu près avec un ampère. On commence à voir. Les hachures avant, on ne voit pas. Et puis, on a d'autres, évidemment, montages, j'en ai parlé. Donc, par exemple, le non-inverseur. Le non-inverseur, on a toujours notre système de contre-réaction ici. Il ne bouge pas. Sauf que l'entrée... On la met sur l'entrée positive et c'est sur l'entrée négative que l'on fixe la tension. Alors soit on la met à la masse ou alors c'est là où on met notre réseau de résistance pour fixer la tension par un pont de résistance. Et là le gain, et ça il y a quelques questions sur le gain d'un amplificateur non inverseur. Et comme il est non inverseur, il n'y a plus le moins. En revanche, comme ici je suis dans le même sens que la résistance, là, ici j'ai gagné c'est R2 divisé par R1 plus 1. Puisque ici, j'ai gagné ici la résistance finalement. Faut reprendre le système comme il se boucle. Mais donc je rajoute 1 à mon gain. Et donc ça c'est le non-inverseur. J'ai dû en avoir 2 ou 3 des questions sur un non-inverseur et c'est tout. Tous les autres montage, et encore, ce sont des vieilles questions. J'en ai pas vu récemment. Hein. Les questions récentes, c'est toujours sur un montage inverseur. D'autres montages, là par exemple, alors celui-là il est quand même assez tordu, c'est un soustracteur. C'est-à-dire que je mets mon signal et sur l'entrée négative et sur l'entrée positive.
Dans ce cas-là, le gain se calcule toujours avec en haut RR.
Ouais.
Et puis en bas, l'autre aussi.
Voilà, sur le rapport de ces là. Non, entre. Attends, je ne sais même plus. Ça doit être le rapport entre ça et ça, et ça et ça, les deux gains. Je ne sais plus comment ils marchent. Enfin bon, c'est pour ça que j'ai mis les quatre mêmes résistances, comme ça je ne m'emmerde pas. Et en fait, le gain là, il est de moins 1, mais en fait, il fait l'écart des tensions que j'ai ici en entrée. Donc cet écart de tension que j'ai en entrée, je le récupère en sortie. Donc ça, c'est le soustracteur. L'intégrateur, celui-là, il est super intéressant. Quand on commence à travailler un petit peu sur notamment les oscillateurs à varicap, pourquoi? C'est que avec la tension ici, si la tension elle est inférieure à cette tension-là, ça va vider le condensateur. Et si la tension elle est supérieure, ça va au contraire le remplir. Et si ma tension elle est égale à 0 volt, eh bien mon condensateur il bouge pas. Donc c'est quelque chose qui va remplir ou vider un condensateur avec, parce qu'en plus il y a, enfin, c'est limité puisque c'est l'ensemble RC là. D'accord? Donc ce système là. Et évidemment, plus mon condensateur ici est rempli, plus la tension aux bornes du condensateur augmente. C'est pour ça que je vous disais que c'est intéressant, parce qu'il suffit après de rajouter une varicap ici sur l'entrée négative, et du coup la capacité elle varie, et de ce fait, si je fous une bobine derrière, eh bien la valeur de mon site, la valeur de la fréquence de résonance de mon circuit va varier. Et va s'accorder avec le circuit. Donc ça, c'est super. Ça, c'est très intéressant. Autre système qui est intéressant, ça, c'est un filtre RC. Assez costaud puisqu'il ramène 12 dB par octave. Et donc ça, j'ai dit, ça c'est à utiliser en basse fréquence, surtout pas en HF. Mais ce système-là, si on a RC de même valeur ici et ici, en fait on a un filtre de bande. Ici on a un filtre passe haut, ici un filtre passe bas. Et donc en fait on a un filtre de bande qui a 12 dB par octave. Donc on peut filtrer une note. Je filtre une note, donc tant qu'à faire, le 800 Hz, donc le morse. Et donc il y a beaucoup de systèmes dans les années 90, des petits modules qui étaient vendus, des filtres morse, qui étaient construits à partir d'ampli-op. Et ça coûtait rien, ça. Ça coûtait rien, ça marchait très bien, et très peu de composants du coup. Bon, maintenant on est passé à une autre, on est dans une autre vie maintenant, mais dans une autre dimension, mais ça marchait super bien. Et puis enfin, et ça c'est quelque chose qui a été répandu récemment avec les smartphones, ce sont les amplificateurs en classe D. Alors, c'est pas réellement des ampli-op qu'il y a dans les téléphones, mais on peut se servir d'un ampli-op pour faire des amplis en classe D. La classe D, je rappelle, c'est ce qu'on appelle aussi du PWM. PWM, c'est Pulse Width Modulation. Donc, je module en largeur de phase, de pulsation. C'est-à-dire que là, j'ai mon signal qui est là. Ici, j'ai une horloge qui est, là en l'occurrence, un signal d'en dessous que je mets sur mon entrée positive. Et lorsque mon horloge, lorsque c'est vrai, Ça m'envoie une tension positive. Lorsque c'est faux, ça m'envoie une tension négative. Et donc, au lieu d'avoir une jolie sinusoïde comme ça, j'ai des largeurs de pulsations variables. Ce qui veut dire que cet amplificateur-là, il a un rendement qui est proche de 100%. Parce qu'il ne chauffe pas. Soit c'est connecté, ou c'est pas connecté. Donc le rendement est très bon. C'est quelque chose qui va être utilisé, notamment dans les smartphones. Et comme les écouteurs des smartphones, les haut-parleurs, c'est assez pourri, et que ça va filtrer finalement parce que vous n'allez pas l'entendre, la largeur de pulsation. Tout au moins, si vous l'entendez, c'est votre oreille, votre cerveau va analyser ça. Entre parenthèses, du coup, ça a tendance plutôt à vous rendre sourd avant l'âge, ce système-là. Voilà, parce que c'est pas non plus très bon pour le tympan.
Mais, les petits osselets qu'il y a derrière.
Ouais, et les petits osselets qu'il y a derrière. Mais voilà. Et donc ça, c'est donc un amplificateur en classe D, monté à partir d'un ampli-op. Alors, j'avais essayé de le faire pour la démo de ce soir, de vous montrer mon ampli-op, de le faire marcher en classe D, j'ai jamais réussi. Alors, je sais pas, j'ai dû merder à un endroit, parce que j'ai essayé de plusieurs montages avec le générateur. J'ai pas réussi à faire à générer une largeur variable. Donc on fera pas la démo, mais voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Encore une fois, les seules questions à l'examen en dehors de l'amplificateur inverseur, c'est sur celui-là, avec le gain qui est indiqué ici, c'est-à-dire R2 divisé par R1 plus 1. Je n'ai pas vu d'autres. Mais là, donc, je vous ai mis quelques-uns des montages, mais si vous cherchez sur Internet, vous allez en avoir... Il y en a une foultitude, hein, avec à chaque fois des particularités. L'intérêt, c'est qu'il y a besoin de très peu de composants pour faire fonctionner le truc. Alors, les circuits logiques sont au programme de l'examen depuis très longtemps. Mais par contre, je n'ai vu qu'une seule question. D'ailleurs, c'est Jules qui l'a vu. Et c'est pour ça que lui, il l'a tout de suite... il l'a tout de suite repéré.
C'est logique.
mais si d'autres, si c'est tombé sur d'autres qui ne connaissent pas les circuits logiques, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc, un circuit logique, alors déjà, c'est un circuit intégré. Alors, je ne vous les ai pas montrés, mais les circuits logiques, voilà. Donc là, par exemple, il y a le 4001 et le 4011, fabriqués par Fairchild, encore une fois. Voici comment, pour le 4001, voici les portes logiques qu'il y a dans un 4001. Donc vous avez les portes. Donc, systématiquement, il y a deux entrées, au moins, et une sortie. Il y a toujours une seule sortie et deux ou plus d'entrées. Et puis évidemment, comme tout bon circuit intégré, il y a une tension positive, une tension négative. Il faut bien l'alimenter.
Hein? Ça, c'est un ou non.
Alors ça, c'est un ou non. Et ça, c'est un non ou.
Je l'avais dit à l'envers.
C'est non ou. Et ça, c'est un non et qui est ici. Vous voyez, la porte, elle n'a pas exactement la même tête. Et là, il y a le petit rond en sortie qui veut dire non. Donc ça inverse la logique de la porte. On va voir ce que c'est que ces portes-là. Donc voilà, à l'intérieur, voilà comment le circuit à l'intérieur. Ce sont des FET, des transistors à effet de champ. Ce n'est pas des transistors bipolaires comme tout à l'heure. Ici, ce sont des transistors à effet de champ. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon, puis les caractéristiques, voilà. Les tensions à ne pas dépasser, les températures. J'en passe et des meilleurs. Et puis, c'est quoi ça ? Fonction de transfert. Relais fonction de transfert. Et à un moment, voilà, et même chose, ça c'est les courbes de tension et de température. Et les encombrements. Et vous voyez, là, encore une fois, là c'est l'espèce de... Alors c'est pas le détrompeur, qui est une sorte de petit point gravé, donc en face du 1. Qu'est-ce que j'ai après ? Encore un détrompe, encore un circuit, encore des circuits, voilà. Donc ça c'est... Vous allez sur Internet, vous trouvez toutes les documentations qui vont bien... Je reviens sur mon PDF et maintenant on va voir ce que sont ces circuits logiques. Donc ce sont ce qu'on appelle des opérateurs binaires, c'est-à-dire qu'ils sont binaires et donc ils ne connaissent que deux positions, 0 ou 1. Pour faire simple, 0 c'est 0 volts et 1 c'est 5 volts. Ça c'est ce que l'on appelle de la logique TTL. Et quasiment tous les ordinateurs vont fonctionner avec cette logique. Et c'est pour ça que sur des alimentations d'ordinateurs, vous allez avoir une grosse sortie plus 5 volts. Parce qu'il faut bien alimenter tous les composants derrière qui ont besoin de générer du 5 volts pour quand il y a un 1 à générer.
En fait,
il y a beaucoup plus de puissance. Oui, parce que le 12 volts, il va servir essentiellement pour le ventilateur, ce genre de truc dans les ordinateurs. Ouais, ou des. Tout ce qui est moteur de. Voilà. Ouais. Les moteurs des disques durs et tout ça. Voilà. Ça revient doucement, hein. Et donc, ça, ce sont les portes que l'on a. Les quelques types de. Alors, déjà, deux types de portes, les et les ou. Donc le « et », on voit ici, là, c'est bien plein. Enfin, c'est le schéma. Ça, alors, le schéma, j'aurais dû garder mon schéma. Le schéma officiel, on va revenir dessus, on va le retrouver. Et encore au-dessus, voilà. Le schéma officiel, ça c'est « ou », ça c'est « et ». Ça c'est le schéma officiel. Moi, j'ai... fait mes petits dessins comme j'ai pu, et donc ça c'est devenu mon et ça c'est devenu mon ou. Mais évidemment on doit plutôt se référer au dessin officiel. Donc ma porte et, la logique de ma porte et, c'est quoi? C'est que si je veux avoir un ici en sortie, il faut que j'ai un sur A et sur B. Et si j'avais une troisième porte et même une quatrième, il faudrait que j'aie un partout. C'est ça la logique. Et si j'en ai qu'un seul qui n'est pas un dessus, ben j'ai zéro en sortie. De toute façon, c'est du français, hein, c'est et. Voilà. Donc ça, c'est la porte E. Alors, La porte est aussi, on peut la l'indiquer quand on n'a pas, quand on se fait pas des beaux dessins comme ça, la, le mettre le et l'esperluette. Donc le et, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Et commercial, non. Enfin, c'est l'esperluette. Le nom officiel de ce joli caractère, c'est esperluette. Et en algèbre booléen, parce que M. Boulle, alors il n'a absolument pas travaillé sur les circuits logiques. C'est quelqu'un qui travaillait sur les statistiques au 19e siècle. Et M. Boulle, il a fait enfin, de l'algèbre booléen, mais comme derrière on a les informaticiens qui sont arrivés, ben, ils ont repris les travaux de M. Boulle. Et Boulle, il avait fait des tas de calculs à partir de 0 et de 1, parce que lui, il faisait des statistiques. Donc 0, bah, c'était vrai, 1, c'était faux. Enfin, ou plutôt l'inverse. Donc, et il ne connaissait pas les valeurs intermédiaires. Hein. C'était le D, soit c'était...
on encaisse, on décaisse.
Voilà. C'était facile, hein. Et donc là, son opération en algèbre booléen, c'est la multiplication. Donc c'est pour ça qu'on met un point entre les deux. D'accord ? Dans, et donc ça, c'est la table de vérité de mes circuits. Donc là, j'ai mis les quatre possibilités d'entrée. Hein, soit c'est 1 et 1, ou 1 et 0, ou 0 et 1, ou 0 et 0. Quatre possibilités. Selon ces possibilités, bah, ça nous donne ici ma sortie. On voit qu'il n'y a qu'une seule possibilité où j'ai 1 en sortie, c'est quand j'ai les deux qui sont 1. Dès que j'en ai un seul qui n'est pas 1, et encore, si j'en ai aucun, évidemment, c'est encore pire. J'ai rien du tout 1. La logique de la porte OU, ben, c'est l'inverse. Il suffit que j'en ai un seul qui soit à 1 pour que ma sortie soit à 1. Et si j'ai 3 ou 4 portes ici, ben, il suffit qu'il n'y en ait qu'une seule. Donc il n'y a qu'un seul cas où j'aurai 0 en sortie, c'est quand tout est à 0. C'est d'une logique implacable. Et puis, j'ai un joker. Le joker, c'est le rond. Et le fait qu'il y ait un rond, ça inverse la logique de la porte. Donc, en l'occurrence, là, le rond, il est en sortie. Donc, ça inverse la logique de ma sortie. Donc là, c'est une porte non et. Ce qui veut dire que, ici, je reprends la même chose. Mais j'inverse tout. Mais je peux aussi avoir sur mon entrée le nom. Et dans ce cas-là, ça inverse la logique d'entrée. Donc ça, c'est non ou. Donc on va dire c'est non ou. Enfin,
non.
C'est non ou. Enfin. Non, comment on vous le dit du coup ? Enfin, de toute façon, c'est NAND. Donc, c'est A, NAND, B. Hein, c'est A, non et A. C'est pas facile à dire. Et donc, quand on a une barre, là, enfin, un rond, ça devient, on met ici dans l'algèbre booléen, une barre au-dessus. Et donc on dit barre pour dire que la logique est inversée. Ce qui veut dire que quand on est en algèbre booléen, le fait qu'on ait non et, donc A et B barre, ça correspond à A barre ou B barre. Faut inverser.
Faut convertir dans la tête.
Et ça, alors là, vous en avez, enfin après, on s'amuse dans tous les sens, hein, parce qu'évidemment, on peut reboucler derrière sur une autre porte, etc. Hein.
Le plus rigolo, c'est le nord.
Alors après, il y en a encore une autre, là, ça c'est l'exor. L'exor, donc c'est le ou exclusif, et l'exor, donc c'est l'espèce de plus, là, qui est entouré d'un cercle, ça c'est exor. Et donc, c'est, en fait, exor, c'est, il faut qu'il y ait une et une seule. J'en veux pas deux. À un, pour que ma sortie soit un. Et si j'en ai quatre en entrée, là, je ne veux en avoir qu'une seule qui a un. Pour que j'ai un en sortie. Sinon, si j'en ai plus d'une, ou si j'en ai aucune, j'ai zéro. Donc là, exor, je ne veux en avoir qu'une seule. En fait, ça, c'est les trucs de sécurité. Hein? C'est-à-dire que je ne veux avoir qu'une personne dans l'ascenseur. Sinon, l'ascenseur, il démarre pas. Et donc, il suffit de mettre, de compter, je sais pas quoi. Et donc là, voilà, on s'amuse avec ce genre. Et en algèbre booléen, A XOR B, c'est non A et B ou A et non B. Donc si jamais, si je m'amuse là à faire ça, en fait je vais avoir trois circuits. Deux circuits et un circuit OU qui va prendre l'ensemble pour faire ça. C'est compliqué, hein.
Bah, en plus que nous prenons les politiques.
Alors, évidemment, les questions d'examen, j'en ai pas vu beaucoup. Je sais pas trop ce que. Enfin, la seule que j'ai vue, ça concernait justement le circuit exor. Voilà, c'est le plus simple, évidemment. Mais sinon, les autres questions, je ne vois pas trop de quoi on pourrait parler, si ce n'est que de la table de vérité, par exemple. Mais c'est tout. Ça s'appelle la table de vérité. Ouais. Alors, ça s'appelle aussi une table de Carnot. Parce que M. Carnot, il était contemporain de M. Boulle, et il a travaillé aussi sur... Enfin, il n'a pas travaillé sur le binaire en lui-même, mais il a travaillé sur l'algèbre de Boulle à la même époque. Donc c'est 19e siècle aussi. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, donc c'est ma data sheet. Monsieur Boulle, donc vous voyez, 1844, son algèbre. Donc ça, c'est bon, les différentes portes. Donc le calcul booléen, c'est une approche algébrique de la logique, avec c'est pour modéliser des raisonnements, en fait. Une fois qu'on a modélisé le raisonnement, on peut passer à la réalisation pratique. Et peut-être la simplifier en utilisant des passages d'un système à l'autre. J'ai monsieur Schmitt, donc Otto Schmitt, qui a travaillé un petit peu sur les circuits logiques, mais à l'époque c'était des tubes, et c'était un peu différent, mais ça marchait de la même, enfin c'était vraiment les tout premiers ordinateurs à tube. Je vous raconte pas la place que ça prenait.
J'ai connu un Arménien qui a travaillé sur l'un des premiers ordinateurs soviétiques et qui était rentré dans la pierre de sa tube. Il y avait un étage comme
ouais,
ça.
Ouais.
Il montait d'abord sur un escabeau et il demanda à son adjoint d'allumer la pierre. Il commence à regarder, où ça, il va y avoir un tâche. Eh bien, il n'y avait même pas changé. Là aussi, c'était son boulot exclusivement. Il y avait un flash, c'est que le filament avait sauté.
Avait sauté.
Ben oui, parce que...
et donc, alors, parce que le problème de ce que l'on a dit au départ, la logique TTL, c'est que voilà, 0 volt égale 0 et 5 volts égale 1. Ok. Qu'est-ce qu'on se fait quand ça passe de 0 à 1?
Ça dépend du bonhomme.
Ça dépend, et voilà.
Si c'est un Normand, c'est peut-être bien un oui.
Et puis aussi, bah, y a peut-être des fois le système, c'est pas trop. Voilà. Donc, on était. Enfin, le début de l'informatique, tout au moins, on était bien embêté avec une problématique qui s'appelle en électronique l'hystérésis. L'hystérésis, c'est le fait de passer d'un état à l'autre. Et donc, on ne sait pas du coup. À quel moment ça bascule. Et donc, on a inventé un système qui s'appelle donc un trigger de Schmitt. C'est-à-dire que tant il faut que la tension dépasse plus de la moitié pour que ça bascule sur le dessus. Il faut que ça redescende en dessous de la moitié pour que ça redescende en dessous. Et donc, ça permet comme ça de rendre quand même le système beaucoup plus stable.
Il y a pas de temps quand on contrôle ce truc sur un sinusoïde ou peu importe le signal. On ne prend pas soit la base, soit la pointe,
ouais.
On prend un pourcentage.
Un pourcentage, voilà. Et c'est ça à quoi sert le trigger de Schmitt.
Et on dit, voilà, sur le plan, ça fait déclencher.
À tel endroit.
À tel endroit pour la montée, pareil pour la descente. Donc, ça va couper à tel endroit, et non pas à zéro. Voilà, zéro. Mais on coupe avant parce que c'est l'endroit où c'est plus stable.
C'est-à-dire que ça passe à zéro.
Ouais. Sous un certain seuil, voilà. Et donc, ça, c'est une porte non et, puisque j'ai mon rond, mais qui a un trigger de Schmitt à l'intérieur. Donc, il y a un délai. Il y a ce fameux délai. Et, en fait, oui, exactement. Ouais.
Et ça va se déclencher plus rapidement.
Ouais. Et du coup, avec ce système-là, qui en fait là je reboucle en fait hein, puisque là j'ai une résistance ici je rentre ici les deux mêmes valeurs donc c'est vraiment une porte E mais comme j'inverse ici ma sortie donc le système il est toujours instable puisque je reboucle en contre-réaction et donc mon système là il va soit il va générer un signal carré là
voilà. Totalement 1, totalement 0.
Soit 1, soit 0, parce que ici, ça va remplir ou vider le condensateur qui est là. C'est le truc. Mais ça, c'est un joli générateur de signaux carrés.
Mais plus court.
Voilà.
Avec des intervalles et des.
Voilà, et après, je m'amuse
à
régler le rapport ici avec la résistance et le condensateur.
Et la bascule.
La bascule, non. Enfin, faut trouver la bascule adaptée.
Non, mais je veux dire
le trigger, il
fait pas raccourcir le délai de.
Non, c'est uniquement le couple résistance condensateur.
Alors pourquoi mettre un trigger alors?
Parce que sinon, si tu mets pas le trigger, le truc, il oscillera pas. Il va se retrouver comme un ampli-op, c'est-à-dire que quand il va se retrouver au milieu, il va plus savoir quoi faire. Et donc, il va pas osciller. Il va rester au milieu, et puis, du coup, il saura plus quoi faire. Il sera perdu, pépère. Alors que là, je fais exprès de le... finalement, de le martyriser.
Oui, on force à passer d'un état à
l'autre. Ouais, on force de passer d'un état à l'autre. Donc voilà. Et trigger, donc en anglais, ça veut dire une gâchette.
Un
déclencheur. Alors ça, alors encore une fois, pas de question à l'examen là-dessus, heureusement. Donc ça, c'était des anciennes mémoires dans tout au début de l'informatique. Pas de l'informatique, puisque les premières mémoires, c'était des mémoires à tort. C'était encore pire comme système. Faudrait que j'en ramène, parce que j'en ai une à la maison que mon père m'avait ramenée.
Moi j'en ai une aussi, une matrice.
Une matrice à tort.
Je devais prêter à ma fille pour la démonstration de code.
Voilà, et puis.
Des petits anneaux avec des cuits.
Ouais, qui repassaient dedans. Ouais, moi j'avais récupéré ça aussi. Donc il faudrait que je la ramène un jour. Et donc ça c'était dans les années 60, puisque mon père il a fait l'informatique dans ces années-là. Enfin, il faisait de l'informatique bancaire.
Bah, c'est là que j'utilisais. Hein.
Voilà, et après, donc dans les années 70, on va dire, on a eu les premières mémoires à circuit logique. Et donc là, l'idée, c'est avec deux portes NAND, donc non et, en fait, je garde en mémoire la dernière action qui a été faite, soit contact sur E1, soit contact sur E2. Et si la dernière action a été un contact sur E1, c'est la sortie S1 est au plus. Est à 1. Et recopie sur S, la dernière entrée à 0. Oui, à 0, puisque ici, je suis à la masse. Voilà. Et ici, je recopie en sortie la dernière entrée à 1, donc, puisque ici, j'ai une tension de plus 5 volts. Et donc, je recopie en sortie le dernier contact que j'ai activé. Problème, c'est que ce système-là, c'est très gourmand. Parce que ça permet de mettre en mémoire à vite. Et donc, c'est très gourmand. Et donc, on est très vite arrivé au bout du système. Un, c'est très gourmand. Et deux, ça nécessite quand même pas mal de composants.
Comment tu décolles ton entrée ? Comment tu as fait changer d'état ?
Ah bah parce que ici, tu as deux... tu colles. C'est un relais.
Il pourrait bien y avoir le même message avant.
Ah oui.
Qui impose une certaine logique. Si que le 3 et 4
sont dans un état.
Ça te lève un drapeau là.
Voilà, et puis tu peux avoir une porte E ou une porte O avant.
Ça, c'était l'époque où on programmait. Ça s'appelle la mécanographie.
Oui.
Pour vraiment avec les fiches bananes.
Ah ouais, oui, oui.
Je me rappelle de ça. Et puis, c'était l'endroit secret à l'usine. Comme en tant que je faisais l'entretien de tout ce qui se passait en électricité, j'avais le droit d'y aller, mais sous surveillance.
Oui, oui. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qui n'est plus utilisé. Alors, ça s'appelait un système RS. Pourquoi RS ? Parce que c'était reset. Donc la remise à 0 et 7 positionné à 1. Donc c'était des bascules RS, on appelle ça. Ou flip-flop. Mais ça, ça a été abandonné il y a très longtemps. Et maintenant, on a ce... Alors ça a dû commencer dans les années 80, où on avait des transistors à grille flottante. Des FET à grille flottante. C'est-à-dire qu'on avait un FET, donc un transistor à effet de champ, et selon la valeur que l'on mettait ici sur mon fait, eh bien, ça me générait je pouvais passer du courant entre mes deux pattes, et donc c'est ce qui me générait ma porte. C'est-à-dire que si je mettais une tension positive ici sur mon condensateur, automatiquement j'avais une tension négative de l'autre côté, et ça me faisait contact entre mes deux plots. Enfin, ça me fait contact, puisque maintenant, c'est que des mémoires de cette forme-là qu'on a dans tous nos systèmes. Donc il n'y a besoin que d'un seul composant là, par rapport aux portes qu'on a vues tout à l'heure, où il y a deux portes, et vous avez vu le nombre de transistors qu'il y a pour faire une porte double. Et l'avantage, c'est que du coup, ça consomme plus. Enfin, tout au moins pour garder en mémoire, ça consomme plus, puisque c'est la tension qu'il y a dans le condensateur qui ne se vide pas. Mais on fait en sorte qu'il ne se vide pas. Et d'ailleurs, sur les cartes SD, ça ne se vide jamais. Puisqu'on garde en mémoire sans pour autant que la carte soit alimentée. Ça ne se décharge pas. Tout va bien. On a tout gagné. Donc pas de questions dessus, hein, heureusement. Mais voilà, c'était histoire de...
Les explications sur la mémoire étaient first in,
first
out.
Ouais.
Donc le premier André, c'est lui qui va sortir son signal en priorité.
Et puis sinon, il y avait les philos.
Oui, first in, never out.
Ouais.
Ça, c'était la blague. Il ne sortait jamais.
Et alors, sur le système, sur ce chapitre-là, au départ, il y a des années précédentes, il était en italique. Pourquoi ? C'est que ce n'était pas au programme de l'examen. Là, depuis le mois de juin, le traitement numérique du signal est au programme de l'examen. Pour autant, j'ai encore vu aucune question. Mais, je ne peux pas vous certifier que ça va rester comme ça.
Donc, il risque de nous parler en exactement.
Alors, quoi, je ne sais pas, sur quoi vont poser les questions, vont porter les questions. J'ai un peu de mal à... Enfin, on en parle déjà un petit peu, puisque notamment, on va revenir sur le théorème de Shannon-Nyquist, par exemple. Peut-être. Mais bon, on va voir ça plus précisément. Alors, premièrement, petit rappel de français. Digital en français, c'est relatif aux doigts. Donc, on ne dit pas traitement digital du signal, on dit traitement numérique. D'accord ? Voilà. Digital. Digital, c'est un mot anglais. Mais c'est pas du français. Voilà. Puisque un digit, c'est un chiffre. En anglais, un digit, c'est un chiffre. Oui, parce que tu comptais avec les doigts. Puis tu comptais
avec l'action dessus
avec le doigt.
Mon premier téléphone à 40.
Voilà.
On comptait le nombre de plus.
Voilà. Donc le système binaire repose sur les bits, donc les binary digits, donc ce sont les chiffres binaires en anglais, qui ne prennent donc que deux valeurs, 0 ou 1, ça on a l'habitude. Donc du coup, on s'amuse à coder avec des 0 et des 1, et c'est vrai que c'est pas très pratique, donc on va plutôt que d'utiliser des 0 et des 1, on va utiliser des chiffres. Le problème, c'est qu'on n'a que 10 chiffres. Et si on code sur 8 bits, du coup, ça me fait 16 caractères. Et donc, il me manque 6 caractères. que je vais coder de que je vais coder A, B, C, D, E, F. Et comme ça, j'ai mes 16 valeurs de mon octet. Donc 0 correspond à 0 et 15 ici correspond à 4-1 en binaire, ou la valeur F, qu'on appelle en hexadécimal, puisque ici j'ai 16 valeurs, donc hexadécimal, ça veut dire avoir 16 valeurs.
En fait, c'est ces tableaux-là qu'il faut mémoriser, savoir convertir de tête.
Ouais. Enfin bon, après, on peut transformer un chiffre en décimal, le transformer en binaire ou en hexa, etc.
L'avantage de 10, c'est que 10, c'est déjà une terme mnémotechnique.
Voilà. Ouais.
Alors qu'on peut en déduire.
Enfin bon. Enfin voilà. Oui, il y a de bons systèmes. Bon, donc ça, c'est peut-être une des questions. Peut-être, je ne sais pas. Petit rappel encore, un autre rappel, pour codifier une classe d'émission, ça je rappelle la partie réglementation. Quand on transmet des données, on va utiliser en troisième caractère la lettre D. Transmission de données, de data. Et quand on est en transmission de données, évidemment, on vérifie que tous les bits que l'on a reçus sont bons. Parce que sinon, ça ne marche pas.
Si un orage, un éther par quelque part, on récupère dans notre transmission.
Donc il faut absolument faire en sorte de vérifier que tous les bits que l'on a reçus, ils sont bien reçus. Et évidemment, s'il n'y a qu'un seul, même un seul bit, soit perdu, et donc qui décale tout, ou corrompu, c'est-à-dire qu'au lieu d'un 1, on a reçu un 0, ou inversement, évidemment, ça fout un peu le bordel.
Le message devient crypté, indécryptable.
Et donc, pour être certain que tous les bits sont bien reçus, il y a tous des systèmes de correction qui ont été mis en place par les informaticiens. C'est ce qu'on appelle la couche 3 des transmissions d'informations. Et donc là, on a deux cas de figure. Soit c'est une transmission bilatérale, donc on a un émetteur-récepteur et un autre émetteur-récepteur qui communiquent entre eux et qui s'envoient ce qu'on appelle des ARQ, donc en fait des accus de réception, en fait, qui vérifient que on a bien réceptionné tout. Donc il y a des tas de systèmes qui existent. Voilà. Donc ça, c'est un ARQ. Oui, et le système de correction, ça s'appelle un CRC. Un contrôle de redondance cyclique. Et quand on... Alors, donc ça, c'est quand on a deux émetteurs-récepteurs. Et puis aussi, on a le cas où on a un émetteur et des récepteurs. Typiquement, quand on est en TNT, quand on reçoit la TNT, il n'y a qu'un seul émetteur. Et puis, des récepteurs des téléviseurs, qui, eux, ne peuvent pas dire « Monsieur, l'émetteur, j'ai pas tout reçu, vous repassez le paquet. » Et donc, dans ce cas-là, on repasse pas le paquet, mais on fait en sorte de rajouter, finalement, des bits de contrôle pour corriger les erreurs. Alors, généralement, les erreurs, elles sont corrigées, c'est-à-dire qu'on corrige un certain taux d'erreur, et puis s'il y en a trop, le message, on dit ça marche pas, et donc
pas du côté récepteur.
Ah oui,
voilà.
Mais l'émetteur, il envoie tous les messages, y compris les messages de vérification, de correction. Et donc, dans ce cas-là, ça s'appelle un fake. Ça s'appelle un fake. Hein, donc, ce sont les deux systèmes, soit un accusé de réception, soit un fake. Mais, et en fait, plus le système autorise un taux d'erreur important, plus on envoie de bits.
Ouais.
Et donc, plus du coup, le débit est important. Ou moins on peut envoyer d'informations. Parce que si on n'envoie que des bits de correction, les informations, du coup, on n'en envoie plus.
Ça se passe à la vitesse de la lumière.
Bah oui, mais il y a un petit peu, il y a un petit traitement derrière quand même.
On peut régler sur le wiki des tripos.
Voilà.
On peut plus ou moins, on peut quand même supprimer le fake.
Ou alors.
Et avoir des erreurs et des problèmes.
Voilà.
Ou alors avoir un traitement, mais un ralentissement
du
débit.
Parce que le militaire, il doit avoir une logique encore différente. Parce que
ah, mais oui, non, mais sûrement,
la notion
oui.
De délai, de time, c'est hyper important pour
eux. Oui, non, mais après, mais ça, c'est pas spécifique aux militaires, c'est les informaticiens qui mettent le niveau adapté. Hein.
En temps réel.
Quasi, GPS, ouais.
C'est pas besoin d'être très rapide.
Pour
nous, en tout cas.
Pour
non,
nous.
Pas pour nous,
mais par
exemple,
dans
l'entrée des applications
militaires. Bah
oui, il y a intérêt, oui.
Une
guidage d'une fusée, t'as pas inter, pas, ou d'un missile.
À la vitesse du fusil sur la montagne, il y a intérêt de prévenir.
Donc voilà, ce qu'on peut dire aussi là-dessus. Ça, je vous ai mis la modification récente, donc mois de juin l'année dernière, de l'arrêté du 21 septembre 2000. Et donc, on a un petit paquet là. Donc, le point 1.10, traitement numérique du signal, DSP. Échantillon, alors avec trois points, échantillonnage et quantification, on va voir ce que ça veut dire, démodulation des signaux. On va voir ce que ça veut dire. Conversion analogique digitale et digitale analogique. Alors moi, ça m'a fait rigoler. Parce que quand même, le ministre qui ne sait pas parler français, moi, ça me fait marrer. Parce que normalement, on devrait dire conversion analogique numérique et numérique analogique. CNA et CAN. Voilà. Mais bon... peut-être.
Il y a des sensacs en époque qui disaient digital et pas numérique.
Non, mais comme quoi, et non, nous, parce que ils ont mis entre parenthèses ADC, DAC, ça c'est le terme anglais. Alors que le terme français, CAN et CNA, ça existe. Dans la littérature. Technique. Mais bon, attends, on nous a rebattu les oreilles pendant très longtemps pour dire faut que le français reste français et machin. Voilà. Et maintenant, on nous balance ça. Bon.
Les Canadiens avaient un peu de français le samedi.
Bah
oui.
Le samedi, ici, on parle plus français.
Non, on parle de Discord.
Non, mais oui, mais non. Bon. Viens, dans la matinée, tu vas voir, et en français,
Il y a beaucoup de mots, beaucoup de termes. Bon, on revient à notre. Au sujet, là, dont on parle dans notre arrêté. Donc, déjà, convertisseur analogique numérique, donc CAN en français, ADC en anglais. Donc, ça, c'est. Bah, le terme, il parle bien. Hein. Donc, je convertis un signal analogique en signal numérique. Donc, mon signal analogique, donc des tensions qui varient, je le transforme en signal numérique en série de chiffres. Et comment je fais? Eh bien, ici, j'ai mon signale en pointillé, là, mon signal analogique que je veux analyser, et tous les pendant une toutes les périodes que j'ai définies, eh bien, je prélève un échantillon. Donc, je dis, ben voilà, au bout de ce temps-là, je mesure ma tension. Ma tension, elle est, et cette tension, je ne peux pas dire, puisque je suis encore une fois en numérique, donc c'est un chiffre entier.
Ouais.
Hein, je ne peux pas dire, ici, c'est 7,85. C'est 7 ou 8. Mais ce n'est pas 7,85. Et là, l'idée, c'est de dire, à chaque fois, je définis, enfin, le système va faire en sorte que je définis ici ma valeur comme étant la valeur juste en dessous de la tension au moment, ici, de la prise de mon échantillon. Et cette valeur, elle va rester tout le temps de l'échantillon. D'accord ? Donc, le coup d'après, alors, je ne vais pas monter jusqu'en haut. Pourquoi ? Parce que j'y suis pas encore. Ah, j'y suis un tout petit peu après. Donc, je serai en dessous. Voilà. Ici, même chose. Ici, même chose, etc., etc. Donc, je vais avoir des paliers comme ça. Et à chaque fois, eh bien, je vais avoir une valeur ici qui s'appelle la quantification. Et donc la quantification, là, c'est le nombre de valeurs possibles que peut avoir mon signal. Donc ici, là, j'en ai, je sais pas, je dois avoir 8 quantifications. En supposant ici que j'ai 8, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'en ai 12. Donc ma quantification, là, elle est de 12. Et le pas de résolution, c'est l'écart que j'ai ici entre deux valeurs. Ça, c'est le pas de résolution. Le nombre de pas de résolution, ça va me donner ma quantification. Et là, ici, ça va me donner le temps d'échantillonnage, c'est ma résolution.
Et comment on fait pour le retraduire en numérique ?
On verra après. Ça, c'est le système qui est utilisé. Donc, j'ai quoi là ? En fait, ça, ce sont que des
comparateurs,
mes ampliopes. Ici, j'ai que des résistances de 1 kΩ. Donc, en fait, à chaque fois, j'ai 1 volt d'écart. Et puis, je compare. Et puis, selon la tension que je vais avoir, ça va me déclencher les 3 premiers, ou les 4 premiers, ou les 5 premiers. Et cette valeur va être traduite par ici des portes logiques qui vont me traduire ça ici en binaire. C'est pas très compliqué, hein. Bon, après, c'est juste que ça fait quand même pas mal de composants. Bon, évidemment, dans la vraie vie, c'est simplifié puisque les ampliopes, en fait, tout ça, c'est dans le même package, dans le même moule. On a l'entrée où on met le signal à mesurer, et en sortie, vous avez les valeurs sur les.
Mais ce qu'on sort à cet hexadécimal, c'est du binaire.
C'est de l'hexadécimal, ouais.
C'est en binaire, quoi, lui qui donne une valeur.
Ah oui, oui, en binaire.
0, 1,
oui, 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 c'est en hexadécimal que je sors là.
On a 8.
Ouais, mais parce que là, j'ai un peu. Mais enfin, après, c'est pas d'hexadécimal puisque c'est le nombre. Généralement, en traitement numérique de signal, on est en 32 bits ou en 64 bits. Après, tu comptes le nombre de bits, en fait, qui n'est pas spécialement.
Non, ce que je comprends pas, c'est quand est-ce qu'il décidait qu'il passait d'une valeur de 0 à 1
à. Ah, bah, en fait, là, si tu mets une tension de 1,5 V en entrée, il n'y a que cette porte-là qui va être ici,
envoyer
une tension. Toutes celles-là, elles ne vont rien envoyer puisque ça va être
faux.
Ouais.
Oui, donc c'est vrai, on n'est plus en binaire.
Non, tu n'es déjà plus en binaire. Après, c'est dans le décodeur qui te traduit ça après en binaire. Enfin, ou tout au moins en bits.
Oui, oui. D'accord.
Tu vois, c'est.
Oui, en fait, c'est une suite, je ne comprenais pas. À quel moment il décidait qu'il passait d'une valeur de 0 à 1.
En fait, il compare, il regarde la tension, quelle est la tension à ce moment précis.
Oui, il met le DDP et.
Ouais. Ouais, ouais. Et il garde cette valeur tout le temps. Jusqu'au prochain top horaire où on dit mesure.
Il va changer de niveau entre le bit précédent et puis le niveau décalage de temps. Voilà, on voit bien.
Et donc, l'échantillonnage, c'est l'inverse de la fréquence. Enfin, la durée de l'échantillonnage, là, c'est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage.
Oui.
C'est bête, mais enfin bon. Bah oui, c'est F égale 1 sur T.
Oui.
Ou T égale 1 sur F. Enfin, bon, même.
Et là, en l'occurrence, T, c'est l'échantillonnage.
Voilà. Et ce qui est important là, c'est qu'il y a du coup une fréquence maximum de conversion. Et cette fréquence maximum de conversion, c'est quoi? C'est la moitié de la fréquence d'échantillonnage. C'est-à-dire que, on va le voir après, ici j'ai une fréquence, ici c'est mon signal, et c'est un signal qui est au-delà du double de la fréquence d'échantillonnage. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Mon système ne peut pas marcher. Puisque je n'ai pas suffisamment de détails de ma sinusoïde pour former mon signal. Puisque là, ce qu'il va faire, il va faire comme on lui a dit. C'est-à-dire qu'à chaque top horaire, tu me prends la tension. Sauf qu'entre-temps, il y a eu une sinusoïde complète. Donc mon système, là, ne peut pas m'analyser. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle, donc, cette fréquence maximum de conversion qui s'appelle, donc, la fréquence de Shannon-Liquid. C'est mes deux... informaticiens qui ont, c'est pas des informaticiens en l'occurrence, puisque c'est dans les années, c'est début du XXe siècle, où on a commencé à travailler sur ce traitement numérique du signal, mais c'était des mathématiciens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé sur du réel, sur des circuits.
Alors, du coup, ça génère une erreur.
Ah, oui! Mais tu peux pas justement. C'est le bout du bout du. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller au-delà de deux fois la fréquence d'échantillonnage. C'est impossible.
Mais du coup, il y a une valeur minimum pour l'échantillonnage.
Ah oui, parce que concrètement, tu as intérêt même à être en dessous. Hein. Parce que sinon, tu n'as pas suffisamment de détails pour traiter numériquement ton signal. Grosso modo, il faut que le signal qui doit être traité soit 4 fois inférieur à la fréquence d'échantillonnage. Grosso modo. Au-delà, tu commences à avoir des problèmes. Il faut au moins 4 valeurs pour chaque sinusoïde.
Et
pour chaque période. Sinon, tu ne peux pas traiter ton signal. Tu n'as pas suffisamment d'éléments pour le faire. Pardon ? Ah bah oui, t'as pas assez de... Oui. Et donc derrière, tu vas pas être capable de... Bah déjà, de déterminer où est le maximum, où sont tes maximums. Donc tu pourras pas traiter et donc faire de calculs. Donc ça, et donc ces fréquences-là, c'est ce qu'on appelle des alias. Parce que ben, la fréquence, elle existe bien, mais elle n'est pas traitée. Alors ça s'appelle des alias et aussi des fréquences de repliement. Bon, ça, c'est... Et encore une fois, je ne vois pas ce qu'on peut poser comme question dessus. Mais c'est pour vous montrer que y a le traitement numérique du signal, ça nécessite quand même à ce que la cadence de calcul soit largement supérieure à la fréquence à analyser.
Au moins le double.
Au moins le double, mais dans la vraie vie, c'est 4 fois.
Ouais, et si on décide d'avoir une résolution pas meilleure, on multiplie encore par 2 la fréquence d'échantillonnage.
Oui, mais encore faut-il que ta machine derrière elle puisse tenir.
S'ils sont capables de...
Ah ouais, non, mais attends, oui.
C'est le minimum.
C'est le minimum. C'est le minimum. Bon, c'est vrai que maintenant, on monte quand même assez haut en fréquence avec... Ouais, mais... ça, voilà, c'est pas... Ça se fait pas comme ça, hein.
Mais dans un cas comme ça, si... Il n'y a pas moyen de multiplier par 2 la valeur de la fréquence pour allonger notre sinusoïdale et la recalculer derrière dans la
moitié. Ben non, ça ne va pas marcher.
Ça ne marche pas.
Non. Non, la seule manière.
Un multiple,
non, mais la seule manière, c'est de descendre en fréquence après. C'est-à-dire que tu prends ton signal, tu le descends en fréquence et tu le fais traiter. Donc c'est ce qui se passe dans les clés SDR.
Ouais.
Dans les clés SDR, c'est ce que tu fais. C'est-à-dire que tu mets un mélangeur et qui redescend en fréquence et qui te permet comme ça de faire fonctionner, c'est la carte son qui va marcher de mon ordinateur. La carte son, c'est du son.
Oui.
Donc c'est pas du tout en fréquence. Donc tu vas descendre en fréquence avec un mélangeur et tu vas traiter ton signal comme ça. Donc tu vas, c'est d'autres, c'est avec des astuces qu'on y arrive. Mais c'est pas en traitant le signal pur et dur comme ça. Ici, j'ai mis un convertisseur numérique analogique, donc c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, j'ai des bits avec finalement une sorte de relais. Ici, j'ai des résistances de valeurs différentes. Je vais vous montrer. Hein, qui sont de manière ici, qui augmentent de manière à chaque fois je double, donc 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ohms, et selon ce que, enfin c'est une sorte de relais, hein, et selon la valeur que je mets, et ben, comme je mets derrière un ampli-op, voilà mon ampli-op, avec une valeur R, et bien ici, ben, j'ai une tension qui va être directement fonction des valeurs ici que j'aurais mis. C'est bon. Je suis pas certain que ça marche, hein, cette manip.
Parce que là, c'est les fréquences, la résistance est équivoque au multiple des fréquences des bits.
Ouais. Enfin, de la tension.
Oui, de la tension.
La tension.
2, 4, 8, 72,
voilà, exactement. 68. Bon, enfin, je pense que ça, c'est un schéma théorique en réel. Ouais. Je ne suis pas certain que ça marche, mais enfin.
Quand on reste dans des fréquences raisonnables,
ça doit marcher.
On met en plein dedans.
Ouais, ça doit marcher. Enfin, moi, c'est peut-être le côté ici des interrupteurs. Bon.
Non, mais ça explique bien.
Mais ça explique, voilà, c'est expliqué la manière dont ça va faire.
Je vais voir si on peut dormir les signaux numériques, il y en a analogique maintenant.
Pardon ?
Une application concrète de passer de numérique à analogique.
Ah, c'est le traitement du signal après. Une fois que tu l'as numérisé, ton signal, tu peux faire tout ce que tu veux. Bon, alors, par contre, il faut être balèze en mathématiques. Hein. Et notamment, traitement des matrices.
On voit là déjà un petit.
Voilà. Alors là, là-dessus, je suis complètement largué. Là, il faut aller voir mes petits camarades...
Du samedi matin,
qui t'explique ça de manière tout à fait naturelle. Voilà, chacun son job. Hein. Moi, j'ai un peu de mal. Eux, ils m'expliquent ça naturellement.
Oui, ils sont tombés
sur le coup, je comprends, et après, je suis infoutu de réexpliquer. Bon, pour eux, c'est inné, donc... et donc on en arrive au traitement numérique là-dedans, parce qu'une fois qu'on a numérisé notre signal, en fait il va falloir le traiter à la manière de Fourier. Alors rappelle quand même ce que c'est que la loi de Fourier. Elle nous dit que toutes les fonctions périodiques, donc y compris les sinusoïdales, sont la somme de fonctions sinusoïdales de fréquences multiples de la période. Ce qui veut dire que chaque signal, quelle que soit la forme du signal, peut se représenter sous forme de somme de sinus. Lesquels sinus sont tous multiples de la fréquence du signal qu'on veut traiter. Donc finalement, quand je vais voir un signal, quelle que soit sa forme, je vais traduire ça sous forme de différentes, une sorte de peigne avec différentes fréquences. Donc instantanément, je vais dire un signal est constitué de tel pourcentage de cette fréquence, plus tel pourcentage de telle fréquence, plus tel pourcentage de telle fréquence. Ça, c'est la loi de Fourier. Et donc, les transformées normales de Fourier, c'est une opération mathématique qui consiste à traduire tous mes chiffres que j'ai ici en pourcentage, finalement, de fréquences définies par ma transformée de Fourier. Et ça, cette opération mathématique, ça s'appelle une convolution. Alors, c'est super compliqué. Encore une fois, les jeunes vous expliquent ça de manière naturelle. Moi, je suis perdu. Donc ça, c'est la transformée normale. Et la transformée rapide de Fourier, donc les FFT, ça, c'est partout, dans toutes les cartes son, ça va fonctionner avec ces transformées rapides de Fourier. C'est à peu près la même chose, sauf que il y a un programme qui est dans les machines qui permet de traiter beaucoup plus rapidement que par ce biais-là. En revanche, on perd en finesse, c'est-à-dire que
il y a plus.
Et le problème, c'est que le nombre d'échantillons à traiter en même temps doit être multiple de 2, une puissance de 2. Et c'est pour ça que toutes les cartes sont, généralement, par exemple, c'est 32 bits.
C'est dans des codes 16.
Et voilà.
Moi, j'avais mon chef, qui est ingénieur mathématicien. Lorsqu'il recherchait une matière dans un sérum,
ouais,
ou dans un liquide, dans le pinard par exemple, il analysait avec grâce au transformé de Fourier dans telle ou telle bande de fréquence, par exemple.
Et puis,
nitrate qu'il y a dans l'eau,
ouais,
il fallait le chercher autour de 230-240 nanomètres. Longueur d'onde, hein, c'est-à-dire dans l'ultraviolet lointain. Et lui, grâce à ça, il savait détecter et le chrome, qui est un petit peu à côté, ou
les
nitrates. Mais avant de mettre ça au point, il s'est pris le chou pendant trois mois pour
trouver la formule.
Et après, c'était de la rigolade.
Bah oui, mais.
Et c'est comme ça que, par exemple, on démolit M. Volpic. Il prétend que c'est l'eau des volcans. Putain, eux, ils ont 7, je sais pas si c'est des ppm, des points pour 1000, ou des pourcentages, mais c'est un peu énorme.
Non, c'est des ppm.
La merde, ils ont nous, alors que tu vas voir Evian, Vadwiller, Verdoutre. Et nous, on le voyait instantanément avec notre appareil, donc pour aller analyser derrière les stations de traitement des eaux. On avait un truc comme ça automatique qui donnait
la
à quel moment corriger la pompe d'injection de chlore
pour virer les nitrates. Voilà, c'est calcul mathématique. Ouais. Alors c'est les nombres complexes, c'est les matrices, ça va largement au-delà du programme de l'examen. Et donc voilà, si un jour si ça vous intéresse, par contre là, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Alors là, c'est pareil, je vous ai mis ça. C'est sur les DSP, parce que donc les DSP, ce sont les traitements numériques. Et donc l'idée, c'est quoi ? C'est de prendre une partie du signal reçu, de le traiter numériquement et retirer les parasites ou certaines fréquences qui sont audibles mais qui nous gênent, des porteuses. Tu supprimes la porteuse.
Ah oui, en radio.
En radio. Donc voilà, tout ça, tous ces trucs-là, ce sont des traitements numériques du signal, des DSP.
Et du coup, ça permet de le compresser.
Oui, moi, ce qui m'importe surtout, c'est le filtrer. Et avoir des filtres qui soient à la fois efficaces et qui soient très facilement modulaires. Parce que le problème des filtres, c'est quand tu fais un filtre, par exemple, anti-bruit, il va faire, anti-bruit, mais il va faire que ça. Alors que si tu prends un filtre DSP, après, par programmation, tu sais que tu peux retirer le bruit ou la porteuse ou tout ce que tu veux. Voilà, donc après, c'est un traitement informatique. Donc c'est toi qui détermine ce que tu veux retirer. Et c'est beaucoup plus facile à faire.
Oui, il y a plein de composants et le volume est tout. Si tu dois faire ça avec des selfs
et des bobines, ça te fait un truc énorme. Alors que là, ça tient dans un petit.
Dans une puce.
Hein. Et une fois qu'évidemment qu'on a traité le signal, on le remet en analogique pour l'appliquer au haut-parleur. Le nombre de bits de codage va déterminer la dynamique du circuit. Alors ça c'est un truc. Évidemment, la dynamique c'est quoi ? C'est l'écart entre le signal le plus fort et les signaux le plus faible. Ok ? Plus ici on a une quantification importante, plus on a une dynamique qui est importante. Et donc, une quantification importante, plus on va pouvoir analyser le plus petit signal. Parce que c'est ça aussi qui nous pose, enfin, qui va nous intéresser en radio. C'est de traiter les tout petits signaux. Généralement, ce sont ceux-là qui sont les plus difficiles à ressortir. Et donc, plus ici on a une quantification importante, plus on sort les petits signaux. Et du coup, à chaque fois qu'on rajoute un bit, un seul bit, du coup, on double ici le nombre de quantifications. Je rajoute qu'un bit, mais je double la quantification. Donc le fait de rajouter un bit de traitement, j'augmente ma capacité de traitement de 6 dB. Hein, puisque 6 dB, c'est je multiplie par, enfin, je double ma tension, et quand je double ma tension, je multiplie par 4 ma puissance, et donc ça me fait 6 dB. Donc un bit de plus de traitement, ça me rajoute 6 dB de dynamique.
Il n'y a pas vu les dB,
c'est très bien. dB, ça te va, ça te dit?
Oui.
3 dB, c'est x2.
Oui,
ça, alors là, faut.
Il a son diplôme.
Enfin, voilà.
Seulement. Non, mais il y a des choses comme ça.
Et ensuite, alors là, ce sont les SDR, ce sont les petites clés là, qui permettent, qu'on met sur l'ordinateur et qui permettent de se servir de la carte son de l'ordinateur comme d'un récepteur.
Oui.
Ça s'appelle des clés SDR. Oui. Comment ça va fonctionner? C'est qu'en fait, au lieu d'avoir un traitement comme ici, où je n'analyse que d'une manière, je vais utiliser un traitement qui va accélérer encore plus la manière d'analyser. Je vais faire deux points d'analyse. Une, j'analyse le sinus, ouais, mais j'analyse aussi le cosinus en même temps. Le problème, c'est que si j'analyse que le sinus, je ne sais pas si... Et donc, je suis ici sur cet axe-là. Lorsque j'ai une tension, je ne sais pas si mon point, il est plutôt ici ou plutôt ici. Je ne sais pas.
Oui, on ne sait pas si on est dans le sinus.
Oui, je ne sais pas si je suis ici ou ici. Alors que si j'ai les deux, bah, je sais que si j'ai la valeur ici et la valeur ici, j'ai mon point qui est tout de suite calculé. Et donc j'ai gagné beaucoup en temps de traitement. Et donc là, je ne vais pas utiliser une vraie FFT. Je vais utiliser un autre algorithme qui va me permettre de calculer toujours la même chose, c'est-à-dire de connaître le pourcentage de la fréquence, enfin, des différentes fréquences multiples que je veux analyser. Et donc ça c'est un traitement avec ce qu'on appelle un traitement IQ. I c'est cette I c'est ici et Q c'est là. Sinus et cosinus. Alors on en a. Alors il y a aussi les IIR et FIR. Alors ces deux notions-là ne sont pas au programme de l'examen français, parce qu'évidemment dans l'examen français, pour revenir à cette partie-là, on vous a juste rajouté ces trois points-là. Or, en France, on est soi-disant, se rapprocher de la norme européenne qui est la TR6102. Et cette recommandation européenne, elle parle effectivement de ces trois choses-là, mais aussi elle en rajoute au moins 4-5 autres, dont les filtres FIR et les filtres IIR. Et c'est pour ça que je les ai rajoutés. Ils ne sont pas au programme français, mais ils sont au programme AREC, au programme européen.
Ah, donc c'est encore plus facile chez nous.
Donc c'est encore plus facile. Ben, problème, c'est que du coup, notre texte, il n'est pas compatible AREC. Ben, ils n'ont pas repris le même texte. Donc voilà, non seulement ils ne savent pas écrire français, mais en plus ils ne savent pas réécrire un texte. Mais bon. Enfin bon, voilà. Donc j'en étais là. Donc nous en arrivons aux filtres numériques. Et les filtres numériques, alors ça. Le problème des FFT, c'est que ça demande beaucoup de temps de calcul. Et puis c'est super long, quoi. Et donc si on veut faire des filtres passe haut, des filtres passe bas, des filtres tout ce qu'on veut, on va pas trop utiliser des FFT parce que ça nécessite beaucoup de calculs. On va tout simplement faire des filtres tout bêtes, c'est-à-dire que c'est des microcontrôleurs. Tout simplement, il y a trois éléments de base. Il y a un retard, c'est-à-dire une sorte de pile de mémoire qui se décale. Un élément de gain, de multiplicateur, donc ça sait faire une multiplication. Et ça sait faire la sommation. C'est tout ce que ça fait. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, eh ben, on a un petit bout de filtre numérique. Ensuite, il faut les agencer de manière bien précise, ces filtres-là. Ça, c'est juste des petits trucs de calcul, hein, bête et con. Hein. Et alors, évidemment, avant le filtre numérique, il faut avoir un convertisseur analogique numérique, et en sortie, il faut avoir un convertisseur numérique analogique. Mais tout ça, c'est dans la même boîte, hein, dans le même circuit. C'est à l'intérieur du même, il y a juste... Les valeurs ici, notamment ce A1 là, ce coefficient, à définir. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et puis après, il y a une horloge, il y a un cadencement d'horloge pour faire marcher le truc, qui est défini, qui va, à chaque coup d'horloge, et ben la mémoire, elle va se déplacer. Et donc, on distingue deux grandes familles, les FIR et les IIR. Alors, FIR en français, c'est réponse impulsionnelle finie, ou en anglais, je ne sais même plus. C'est l'inverse, quoi. Et les IIR, réponse impulsionnelle infinie. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Les FIR, ils vont pouvoir imiter des filtres passifs, comme les filtres RC, les filtres RL, les filtres LC, et d'autres. Et les filtres IIR, c'est plutôt des filtres actifs et plutôt des oscillateurs. Comment ça marche? Ici, alors, je vais vous mettre le zoom. Ici, ça, c'est... Donc, ici, j'ai un filtre que je dois imiter. Alors, c'est par exemple un filtre LC. Comment je fais pour le modéliser? J'envoie une impulsion sur ce filtre, à l'entrée du filtre, et je regarde en sortie ce que ça me fait. Je le garde en mémoire. Et surtout, maintenant, ça c'est en fonction du temps. Donc, en fonction du temps et de mon déplacement de mon filtre, là, et de déplacement de ma mémoire, ici, je vais appliquer à chaque pas, le coefficient qui m'est indiqué ici. Et je vais sommer tout ça. Si bien que, donc là, je fais ma somme, machin, et en sortie, ici, j'ai mon signal d'entrée qui a été numérisé, et en sortie, eh ben, j'ai mon signal que je vais retraduire avec ici en bleu la somme de tous mes signaux. Et donc comme ça, j'ai imité un filtre avec un traitement numérique. Et ça marche très bien. Tout ce que, enfin, Fifou a acheté un filtre comme ça pour mettre dans son récepteur satellite. C'est tellement simple. Il n'y a pas à s'emmerder. Alors évidemment, il a été calculé pour une fréquence, machin, voilà. Il est fait, il ne bouge plus. Mais c'est quelque chose qui est numérique, donc ça ne va pas bouger. Voilà, ça craint pas le chaud, ça craint pas le froid, ça craint pas l'humidité, c'est génial. Il n'y a aucune variation, oui, c'est que de la... Bah oui. Et puis ça coûte rien, surtout. C'est ça qui est génial, c'est qu'à fabriquer, ça coûte rien. Donc ça, c'est les filtres FIR. Pendant qu'on est là, on a les filtres à ondes de surface. Alors c'est exactement comme les FIR, sauf que là c'est pas un traitement numérique, c'est un traitement analogique. Un filtre à ondes de surface, ça va marcher comme un FIR, donc avec la même logique, sauf que là on va mettre des lignes à retard. Et donc on a... Et ces lignes à retard, tout simplement, ce sont, ça ressemble à du quartz. Et alors, plus précisément, ce qu'a acheté Fifou, c'est une ligne, c'est un filtre à ondes de surface.
Il y en avait dans le télé,
oui.
Un gros machin, là,
des oui. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est l'équivalent d'un FIR, en fait. C'est la même logique. C'est-à-dire qu'on fait un filtre avec des lignes à retard, faire comme si on imite un filtre. Et donc, voilà. La technique, là, je vous l'ai mis. J'ai trouvé un plan de comment c'était foutu à l'intérieur. Voilà, donc il y a du cristal. Alors c'est quoi? C'est du NB, je ne sais pas ce que c'est. C'est lithium NB, je ne sais plus ce que c'est. O3, en bleu. Donc ça, c'est le cristal. Voilà, et donc avec les transducteurs qui permettent comme ça de transférer l'énergie entre les deux. Donc ça c'est... Et l'idée c'est d'avoir un système un peu mécanique de l'application qu'on avait vue en numérique tout à l'heure. Alors évidemment ça ne marche que sur une seule fréquence, hein, et on imite un type de filtre pour une fréquence. Mais voilà, et ça c'est tout petit, ça tient pas de place, ça coûte pas cher, et voilà. Donc ça, ce sont les filtres à ondes de surface, et les IIR. Alors donc un FIR, c'est un filtre classique. Et un IIR, alors là, c'est plus compliqué parce qu'en fait, il y a une contre-réaction. C'est-à-dire que là, il y a une partie du signal qui arrive ici, qui repart dans ces piles de mémoire et qui est réinjecté à l'entrée. Et donc, avec ces systèmes-là, hein, là, celui-là, il renvoie là, donc là, enfin, l'entrée est là, il renvoie là, donc ça, c'est un FIR classique, ça arrive là, ça passe là-dedans et ça reboucle. Donc le système, il tourne tout le temps.
Mais comment il est extrait, là ?
Ah ben après, faut ça, c'est selon ce que l'on veut faire. Hein. Donc ça, c'est typiquement, ce sont des filtres pour imiter plutôt des oscillateurs. Et donc ça, oui, c'est...
Là, il part en boucle.
Oui.
À un moment, il faut bien réussir à le faire ressortir pour que la nouvelle boucle...
Ah ben la sortie, elle est là. Hein. La sortie, elle est là. Ah c'est... J'ai du mal aussi à comprendre. Ouais, mais les petits jeunes, ils vont t'expliquer ça sans problème. Ouais.
Parce qu'en fait, dès qu'il va arriver en haut, il va descendre.
Ah oui, il va recommencer. Bah ouais.
Il part sur une perpétuelle. Il faut bien qu'à un moment, il y ait une commande qui lui dise.
Ah bah oui, mais la commande, elle va arriver, par l'entrée, là. En disant, je sais pas quoi.
Oui, parce que du coup, si t'as une nouvelle entrée, elle va bloquer, vu que l'autre est pendant.
Ouais, mais il y a des applications.
À un moment, il y a une commande qui dit.
Je sais pas. Je sais pas, mais enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces filtres-là, la manière dont c'est fait, la rétroaction, elle continue indéfiniment. Tant qu'ici, on ne donne pas de signal à l'entrée d'arrêter la contre-réaction. Donc voilà. Et donc là, ça c'est un montage possible. Après, faut voir les coefficients qu'on y ajoute hein, à chaque fois. Enfin bon, voilà, ça c'est vraiment du plus. Derrière les applications, je ne sais pas trop. Mais je pense pas que ce soit des applications radio, encore une fois. Parce que ça, c'est du traitement numérique du signal. On ne peut pas dire que. Nos applications, ce ne soit que du traitement numérique. Il n'y a pas que ça, heureusement. Oui. Donc les questions posées à l'examen, bien évidemment, il y en a beaucoup sur les amplioptres qu'on a vu au début. Donc là, par exemple, le gain en tension. C'est moins 15, hein, puisque là c'est 30 divisé par 2, moins 15. La tension en sortie, là c'est 4700 et 100, donc ça me fait 47, 47 fois 0,2, 0,94. Et c'est moins 0,94. Alors pourquoi j'ai pas. Normalement, il devrait y avoir un moins devant.
Moins 9,4.
Ah oui, oui, 9,4. Ah oui, c'est 47. Hein? Ouais, moins 9,4. Ici, alors ça, c'est un schéma très tordu. Mais c'est un... Ici, on voit... Voilà, donc... 1 kilo et 4,7, donc là, c'est 4,7. Et là, on est bien sur la masse, là. Enfin, l'entrée, ouais, elle est bien là. Ouais, ouais. Donc c'est, voilà, histoire de compliquer un peu les choses.
Il faut faire attention que l'entrée positive...
Voilà, l'entrée positive, là, elle est... Voilà. Et donc là, on a 5,7 puisque ici c'est un montage inverseur. Donc 4,7 plus 1, ça me fait 5,7. Tordu quand même. Ça, c'est la question qu'a eu Jules. Que représente ce schéma? Alors ce schéma, ça représente une porte XOR. Parce que si on fait le... Alors, je vous le fais quand même. Je vous la fais court. Ici, donc, si je mets mes entrées, je fais ma logique ici sur cette porte-là, la même logique sur cette porte-là, je fais l'ensemble et ça me donne donc 0, 1, 1, 0, ce qui est une porte XOR. Et tout de suite, Jules, il a trouvé. Bon, heureusement que c'est tombé sur lui, sinon, si c'était quelqu'un de différent, je suis certain que j'aurais eu. Ben, j'ai eu une question, j'ai rien compris.
Oui, donc le plus important, c'est le tableau.
Ouais. Voilà, petite expérience du vendredi soir. Alors, la webcam. Hop. Donc, je vous ai mis ici. Hop, je vais vous mettre ça en gros. Alors, hop. Voilà. Mon bel ampli, hop. Vous voyez, je ne sais pas si on... Ah bah si, on le voit bien, là, le petit point, là, le détrompeur. Donc ma patte 1, elle est là, et je tourne comme ça pour arriver jusqu'à ma patte 8. Ici, j'ai mis le pont, c'est les deux résistances, c'est de même valeur de 15 kΩ. Que j'ai branché ici sur l'entrée qui est ici sur l'entrée positive qui est là. Ici j'ai un potentiomètre, voilà, que je vous mets là, que j'ai mis ici sur l'entrée négative via une résistance, et ici la résistance de contre-réaction. Ici l'ampiop a été branché sur le moins et ici sur le plus. Dans un premier temps, je vais débrancher ma résistance de contre-réaction, brancher ma pile. Si ça veut bien rester branché. Alors, plus, il est là. Moins, il est là. Je reprends un peu de hauteur. J'ai encore rien branché. Ici. Hop. Et ici. Hop. Si ça veut bien rester accroché. Et évidemment, ça ne veut pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hop. Allez. Voilà. Est-ce que ça veut bien rester? Voilà, donc là j'ai 8 volts 20, donc je suis je suis en position vraie, c'est-à-dire que mon entrée négative a une tension inférieure à mon entrée positive. Et je vais augmenter mon entrée négative. Et hop, ça bascule de l'autre côté. Mais vous voyez, je n'ai pas beaucoup fait bouger ici mon potentiomètre. Et de l'autre côté, pas. Et vous remarquez que, bah, attention, évidemment, c'est 9 volts. J'ai 8 volts 21 quand c'est vrai et quand c'est faux. C'est pas 0, c'est 1 volt 30, 1 volt 29. Ok. Maintenant, je mets ma résistance de contre-réaction. La branche. Il ne veut pas rester celui-là. On va le mettre dans l'autre sens pour pas que ça tire dessus. Voilà. Et là, du coup, le système se stabilise autour de 3,98. Bon, pourquoi pas. On va essayer de le faire passer à 4, histoire de dire. C'est dans l'autre sens. Allez. 4. 3,97, 3,98. Allez. On va dire que je suis à 4. OK. Donc, en sortie, j'ai 4 volts. Combien ai-je en entrée? Donc, mon entrée, c'est ce que j'ai ici, à l'entrée de mon potentiomètre. J'ai 4 volts 42. D'accord? Maintenant, je vais essayer de faire passer ma tension ici à 7 volts. Loin, j'en mets en arrière. Ouais, 7,05, on va dire 7. Hein. Ok. Quelle tension j'ai en entrée? 4,13. Je pense que c'est 4,12 et non pas 4,13. Pourquoi? C'est que je dois avoir normalement une relation mathématique assez facile à obtenir. Là donc, j'ai bien marqué 4 volts en sortie, 4 volts 42 en entrée. 7 volts en sortie, 4 volts 12 en entrée. Maintenant, je vais me mettre sur 2 volts en sortie et vous allez me dire quelle tension je vais avoir sur l'entrée. Ici, on voit bien, j'ai un rapport de 1 sur 10, c'est-à-dire que là, j'ai diminué de 3 volts. Mais j'ai augmenté de 300 millivolts ou 0,3 volts. Attention. Donc là, si je baisse par rapport à mes 4 volts là, si je baisse de 2, je vais augmenter de 2 ici.
De 2 ou de 3?
Non, de 2 là, puisque là ici j'ai 4 et je passe à 2. Ou de 7 et je passe à 2. Donc là, je vais avoir 5 d'écart. Donc ici, je vais me trouver à 4,62. Ça marche dans le sens inverse. Donc je devrais arriver à 4,62. Et on va essayer de le mettre à 7 volts. À 2 volts, pardon. Je diminue à 2 volts. Un petit peu. Allez, monsieur. Un peu trop. Allez, diminue. Encore un petit coup. Encore un petit coup. Ah, trop. Ah. C'est très sensible. Hein. Allez, 1,98, 1,99. On est bon. Combien j'ai en entrée? 4,63. Pourquoi? C'est que ici j'ai une résistance qui fait 82 kΩ et ici une résistance qui fait 8,2 kΩ. Donc j'ai bien un rapport de 1 sur 10. Voilà, voilà la manipulation du vendredi soir. Je reviens sur mon PDF. Là, je vous ai mis le schéma que j'ai utilisé. Le PDF que voici, que voilà. Hop, PDF. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.